Et je vous invite à partager deux textes dans le livre du prophète Ézéchiel, tout d'abord au chapitre 34, les versets 17 à 31. Dans le passage qui précède le passage que je vais vous lire, Ézéchiel vitupère, et le mot est relativement faible, contre les mauvais pasteurs, mauvais gardiens du troupeau. Voilà, ceux qui s'engraissent plutôt que d'engraisser les brebis. Donc il y a tout un passage assez long là et assez sévère dans ce domaine. Et puis il y a un deuxième passage que je vais vous lire. « Quant à vous, mon troupeau, ainsi parle le Seigneur Dieu, je vais juger entre brebis et brebis, entre les béliers et les boucs. Ne vous suffit-il pas de paître un bon pâturage ? Faut-il encore que vous fouliez au pied le reste de la pâture ? Ne vous suffit-il pas de boire une eau claire ? Faut-il que vous troubliez le reste avec vos pieds ? Ainsi mon troupeau doit pâturer ce que vos pieds ont foulé et boire l'eau que vous avez troublée. C'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur, je viens juger moi-même entre la brebis grasse et la brebis maigre. Parce que vous avez bousculé du flanc et de l'épaule, parce que vous avez donné des coups de corne à celles qui étaient malades jusqu'à ce que vous les ayez dispersées hors du pâturage, je viendrai au secours de mes bêtes et elles ne seront plus au pillage. Je jugerai entre brebis et brebis. Je susciterai à la tête de mon troupeau un berger unique. Lui le fera paître. Ce sera mon serviteur David. Lui le fera paître. Lui sera leur berger. Moi, le Seigneur, je serai leur Dieu. Et mon serviteur David sera prince au milieu d'eux. Moi, le Seigneur, j'ai parlé. Je conclurai avec mon troupeau une alliance de paix. Je supprimerai du pays les bêtes féroces. Il habitera en sécurité dans le désert et sommeillera dans les fourrés. De ce pays et des alentours de ma colline, je ferai une bénédiction. Je ferai tomber en son temps la pluie qui sera une pluie de bénédiction. L'arbre des champs donnera son fruit et la terre ses récoltes. Mon peuple sera en sécurité sur son territoire. Alors ils connaîtront que je suis le Seigneur quand j'aurai brisé les barres de leurs joues et que je les aurai délivrés de la main de ceux qui les asservissaient. Les nations ne feront plus contre eux les razzias et les bêtes sauvages ne les dévoreront plus. Ils habiteront en sécurité, sans personne pour les faire trembler. Je ferai croître pour eux une plantation de renom. Il n'y aura plus dans le pays de gens portés par la faim. Les nations ne leur feront plus porter de déshonneur. Alors ils connaîtront que je suis le Seigneur leur Dieu, que je suis avec eux et qu'ils sont mon peuple, la maison d'Israël, oracle du Seigneur. Vous êtes mon troupeau, le troupeau de mon pâturage, vous les hommes. Moi, je suis votre Dieu, oracle du Seigneur. Et puis, donc, ce deuxième passage dans l'évangile de Jean, au chapitre 10, les versets 1 à 10, c'est la parabole du bon berger. C'était une des lectures qu'on nous recommandait de lire aujourd'hui. Et donc, j'ai sauté sur l'occasion, vous pensez bien. Un texte pareil, on ne laisse pas passer, hein. Pas possible. Donc dans l'évangile de Jean, au chapitre 10, « en vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans l'enclos des brebis, mais qui escalade par un autre côté, celui-là est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Celui qui garde la porte lui ouvre, et les brebis écoutent sa voix. Les brebis qui lui appartiennent, il les appelle chacune par son nom, il les emmène dehors. » Lorsqu'il les a toutes fait sortir, ils marchent à leur tête, et elles le suivent, parce qu'elles connaissent sa voix. Jamais elles ne suivront un étranger. Bien plus, elles le fuiront, parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas la portée de ce qu'il disait. Jésus reprit, « en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont pas écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il ira, il viendra, et trouvera de quoi se nourrir. Le voleur ne se présente que pour voler, pour tuer, pour perdre. Moi, je suis venu pour que les hommes aient la vie et qu'il ait en abondance. » Père, merci pour ces images du berger et du troupeau. Elles sont chères à nos cœurs. Elles sont toujours d'actualité. Amen. Et je vous invite à prendre le psaume 121b. Père, merci d'être là sur nos routes pour nous accompagner, pour nous guider et pour nous protéger. Amen. L'image du berger et du troupeau est une image qui est extrêmement sympathique et bucolique et familière. Je pense que les uns les autres, vous avez tous vu, soit en réalité, parce que ça commence à se faire rare, hein, les grands troupeaux, hein, je veux dire, avec des bergers. Mais vous avez sans doute vu en réalité, ou au moins dans des reportages ou dans des films, des bergers et des troupeaux. Tout ça est très sympathique, c'est vrai. Il y a une certaine douceur qui se dégage souvent, etc. Pourtant, cette image du berger, elle est souvent utilisée dans la Bible. Elle est utilisée dans le grand prophétisme, à l'instar d'Ézéchiel, dont nous avons lu un passage. Et on la retrouve dans le psaume 23 que nous avons chanté, mais il y a aussi des passages dans d'autres, évidemment, livres de la Bible. C'est une image très familière pour les gens de l'époque, évidemment, puisqu'ils avaient les troupeaux carrément dans leur village et dans leur ville, et dans les environs immédiates. Donc c'est une image très concrète pour les gens. Jésus parle le langage des hommes de l'époque, évidemment. Mais au-delà de cette familiarité que nous avons, cette proximité que nous avons avec cette parabole du berger que nous connaissons bien, il faut remarquer que ce texte est en fait un texte extrêmement polémique. Ce n'est pas un texte si doux que ça. Et c'est souvent le cas, parce que nous connaissons assez bien les évangiles, et surtout dans les grands textes classiques comme celui-ci, et donc souvent nous ne faisons pas attention à l'aspect un peu musclé qu'il y a dans le récit. En fait, Jésus, là, est en train de polémiquer de manière assez sévère avec celles et ceux qui sont devant lui, qui sont, dirons-nous plutôt, les intégristes. Il y a sans doute quelques pharisiens qui sont là en cherchant à appliquer la loi à la rigueur pour chercher de la pureté et la fidélité à Dieu. Il y a sans doute des sadducéens et peut-être des précurseurs des zélotes, des gens qui ont, eux, une forme d'intégrisme plutôt politique, hein. Alors effectivement, il ne faut pas perdre de vue cela. Jésus dit de manière très claire, ce n'est pas compliqué, on ne peut pas rester enfermé dans l'enclos de nos certitudes, on ne peut pas dire que nous avons la vérité et que les autres sont à l'extérieur de l'enclos, ça c'est pas vrai. Il y a quand même un danger qui est là, c'est la tentation terrible, la tentation des sectes, c'est la tentation d'intégrisme qui peuvent dériver dans la violence, dans l'exclusion, dans le crime parfois. Nous le savons malheureusement par l'actualité que cela existe, mais nous savons aussi par l'histoire que cela a existé évidemment dans toutes les régions du monde, dans toutes les religions et même dans le protestantisme aussi évidemment. Mais au-delà de cet aspect polémique, il y a des images qui révèlent Jésus-Christ de manière extrêmement intéressante. La première image, évidemment, c'est le berger. Évidemment, ça, cette image, elle nous marque. Elle nous marque, évidemment, parce que nous connaissons bien ces paraboles du berger ou celle de la brebis perdue, etc. Et puis, ça a marqué les premiers chrétiens. Si, je ne sais pas si vous êtes allé à Rome, ça peut arriver, hein. Et pour aller à Rome, si vous avez visité les catacombes et vous avez vu ces images du bon berger où on voit Jésus qui est représenté avec un agneau sur les épaules qu'il est allé chercher et qu'il ramène, enfin bref, ou qu'il aide à vivre. Donc c'est une image qui a imprégné le christianisme de manière très très forte, évidemment. Et c'est vrai que dans le récit que nous avons lu, l'image du berger est quand même très positive. Il arrive sans se cacher, il arrive comme cela avec une parole claire, une parole qui est crédible visiblement. Il vient et il vient vers son troupeau. Il vient de l'extérieur vers le troupeau, et ça c'est, vous le savez, j'ai souvent insisté sur cette démarche de Dieu en Jésus-Christ qui va vers le monde. Quelque chose vient vers nous, nous chercher là où nous sommes, et en l'occurrence là c'est le troupeau, le peuple qui est là, qui attend visiblement quelque chose ou qui espère quelque chose, et donc Jésus vient vers, et il passe évidemment par la porte sans se cacher. Et évidemment, on a là le contraire des mauvais pasteurs, des mauvais bergers qui ont tendance à avancer masqués, comme on disait il y a quelques années à propos des sectes, on disait elles avancent masquées, hein, ou des gens qui sont malhonnêtes, qui se présentent toujours sous un aspect sympathique et qui pourtant ne se gênent pas pour piller évidemment le troupeau. Ce sont des choses qui arrivent malheureusement, je veux dire. Voilà, ça n'exclut pas les erreurs, on peut faire des bêtises, évidemment, ça n'exclut pas le fait qu'on est toujours en deçà de la tâche qui nous incombe. D'abord, vous savez que moi, je trouve que c'est toujours très difficile de prêcher, parce que comment parler de Dieu, je veux dire, lorsqu'on est simplement humain et avec un langage humain, je veux dire, c'est quand même un challenge qu'il est impossible de tenir, visiblement. Donc, il faut y aller, on le fait malgré tout avec les moyens que nous avons. C'est-à-dire, et sûr que nos prédications sont toujours très en deçà de ce qu'elles devraient être, évidemment. Mais Jésus est là, il vient, il ne se cache pas, il est clair, la communication semble aisée. Il appelle, il y a une parole qui est dite, et la porte par laquelle il entre, elle est ouverte. Et ça aussi c'est important, j'en reviendrai sur l'image de la porte, et elle est ouverte par le gardien. Le gardien, elle lui ouvre la porte. Alors il y a cette image du gardien aussi, évidemment. C'est la deuxième image qui est là, et qui me semble importante. Le gardien, il ouvre la porte, il permet la communication. Hein, c'est lui qui préside à cela. Vous savez que dans l'Apocalypse, il y a une porte ouverte assez extraordinaire et qui conduit à toute la grande révélation qu'est l'Apocalypse, hein, finalement. Il y a une porte qui est là. C'est un symbole extrêmement fort avec cette porte et ce gardien qui l'ouvre finalement pour que, il se passe quelque chose d'important. Le gardien, il ouvre la porte, mais il protège. Il est gardien. Il protège de l'extérieur, évidemment. Et sans doute, s'il y a cette référence aux voleurs, etc., évidemment, cette polémique, c'est là qu'on voit qu'il y a une polémique très forte, évidemment, vis-à-vis du judaïsme antique et de la loi appliquée à la rigueur sans l'esprit, dirait l'apôtre Paul, évidemment. Hein, il protège de l'extérieur, mais il est le gardien, finalement, du troupeau. Et il règle la vie. Il surveille aussi. Pour ça, je trouvais que c'était intéressant de lire le passage d'Ézéchiel, vous savez, où il y a cette image des béliers avec leurs cornes qui donnent un coup de corne aux brebis qui sont un peu plus faibles, un peu faiblardes pour pouvoir accéder aux meilleures parts du pré, finalement. C'est une image qui est assez amusante presque, mais qui n'en est pas moins réelle, je veux dire. Combien ainsi, dans le monde, donne des coups de corne pour écarter les plus faibles afin d'avoir la plus grosse part du gâteau, finalement. Nous ne le savons que trop dans le monde, que ce soit le monde d'hier, d'aujourd'hui, et ce sera sans doute le pareil demain. Il faut faire très attention avec toutes les technologies qui sont là, qui se mettent en place aujourd'hui, de faire en sorte qu'elles ne tombent pas dans les mains de quelques-uns pour leur profit et leur bénéfice, au détriment des autres, évidemment. Donc le gardien, il est là, il protège l'extérieur, mais il peut aussi être là pour surveiller à l'intérieur. C'est pas dit dans la parabole, mais là j'extrapole. Mais si cette personne du gardien est là, c'est peut-être pas pour rien. C'est aussi une image de confiance et apaisante. C'est-à-dire, il y a un gardien qui est là finalement, et donc la nuit, je peux m'endormir tranquille. Je crois que c'est important. C'est peut-être ce gardien qui n'est pas toujours bien vu, parce qu'un gardien, il donne des ordres, il faut faire ci, il faut faire ça parfois, il peut adresser des remontrances, il peut fermer la porte aussi. Donc voilà, c'est peut-être une image de la loi finalement. Je me suis posé cette question, si ce n'est pas une image de la loi telle qu'elle devrait être appliquée dans l'esprit de Jésus, de cette parabole. Il y a une image de la loi qui est là, et donc il faut un gardien pour mettre un petit peu d'ordre, pour éviter un désordre qui ne conduirait à rien finalement, ou une forme d'anarchie qui laisserait peut-être la place pour les plus forts. Mais non, c'est une image de la loi qui est là avec ce qu'il faut faire peut-être, ce qu'il ne faut pas faire, mais une image de la loi qui ouvre la porte, voilà, qui arrive à associer finalement la liberté avec la parole de la loi. C'est un jeu subtil, hein, finalement. C'est peut-être un des apports de l'Évangile de dire que la loi, c'est une loi de liberté, finalement. Hein, je t'ai libéré d'Égypte. Il ne faut pas perdre ce préambule, il ne faut pas le perdre de vue. Vous le savez que j'aime bien ce préambule des 10 paroles. Dire. Donc effectivement, il y a la loi qui est là, mais c'est une loi de liberté. Alors c'est vrai que c'est une loi de liberté, ça nous est dit par la porte. Ce symbole fort dont j'ai dit un mot. Mais la porte, intéressant comme image, c'est le lieu de la communication entre le dedans et le dehors, évidemment. C'est le lieu du contact, c'est aussi le lieu de la séparation. Aussi, lorsqu'on accompagne un invité qui est venu jusqu'au seuil et puis qui La vitrée repart, par exemple. C'est aussi un lieu d'accueil. On peut ouvrir la porte ou la fermer. Je me souviens d'avoir discuté avec un psychiatre qui me disait, lorsqu'il fait dessiner aux enfants des maisons, il regarde la porte. Est-ce que la porte est petite? Est-ce qu'elle est large? Est-ce qu'elle est ouverte? Est-ce qu'elle est fermée? Enfin, il en tire un tas d'enseignements que je ne saurais faire, évidemment, puisque je ne suis pas je ne suis pas psychiatre, évidemment. Mais la porte avait une très, très grande importance dans le dessin de l'enfant pour cet homme. Et donc, je crois que c'est tout à fait intéressant, effectivement, de voir comment sont les portes. Je veux dire, et à Paris, on a la chance d'avoir un nombre de portes extraordinaires dans les immeubles parisiens et avec des sculptures. À force de passer devant, on ne fait pas très attention, mais c'est un peu dommage. Mais il y a tellement de choses à lire sur les portes, sur celle du foyer de l'âme aussi d'ailleurs, et sur celle des églises évidemment, qui sont extrêmement symboliques, ouvertes, fermées. La porte est vraiment le lieu du salut. Du salut si la porte est ouverte, mais de l'exclusion si la porte est fermée. Lieu de jugement, lieu de passage, c'est aussi un lieu d'échange, c'est un lieu de richesse. Et combien de marchés avaient lieu aux portes? Parce qu'il y avait de la place, tout simplement. Quand les villes étaient ceinturées de remparts, à l'intérieur des villes, il n'y avait pas de place, vous voyez, au Moyen-Âge. Devant Notre-Dame de Paris, eh bien, contrairement à ce qu'on peut penser, eh bien, il n'y avait pas du tout de place. Si vous en voyez dans les films, eh bien, c'est un anachronisme. Et les rues dans Paris faisaient à peu près 1,50 m de large pour la plupart des rues. Et donc, les marchés se tenaient en général à l'extérieur de la ville, à la porte de la ville. C'est ainsi qu'au marché au Pourceau, porte Saint-Honoré, à Paris, eh bien, il y avait la place sur ce marché qui était là et a eu lieu sans doute dans les années 1522-23, un des tout premiers cultes protestants à Paris. Vous voyez, c'est du côté du Louvre par là-bas, à l'extérieur de la ville. Vous voyez, lieu d'échange, lieu de richesse finalement, lieu d'accueil, la porte elle est là, c'était aussi un lieu de liberté. Évidemment, quand la porte est ouverte, on peut sortir et vivre l'aventure, aller à la rencontre du monde. Toujours intéressant d'ouvrir la porte pour que tout un chacun puisse sentir cette liberté, ce vent du large qui est là. Il y a quelques jeunes aujourd'hui ici présents, je trouve que c'est intéressant qu'ils sachent que la porte est ouverte devant eux pour qu'ils puissent sortir pour vivre la liberté et y aller, quoi. Franchement, la porte elle est là. Jésus, il est le berger qui marche devant, qui conduit, qui guide et qui protège. Il est le gardien qui surveille mais qui ouvre la porte. Il est lui-même la porte. Jésus concentre dans cette parabole ces trois images lorsqu'il prononce cette parabole, si tant est qu'elle soit lue, mais peu importe. Alors, vous voyez que la liberté qui est là dans cette parabole, avec cette porte ouverte et le troupeau qui sort, ce n'est pas de l'anarchie, évidemment. Il y a un gardien, il y a un berger qui conduit. Je crois que c'est important de le souligner. C'est le salut qui est affirmé. Le salut, ça n'est pas faire n'importe quoi, ça n'est pas avoir une vie complètement débridée, absolument pas, mais c'est une vie qui entend une parole, c'est une vie qui suit quelque chose ou quelqu'un, finalement. C'est quelqu'un, c'est une vie qui est là et qui suit ce Jésus, qui se présente véritablement comme lieu de vie. Il emmène dehors pour la vie, il emmène dehors, c'est-à-dire qu'il nous invite à nous arracher à nous-mêmes, à nous voir une forme d'arrachement existentiel, sortir de nos préjugés, sortir de nos peurs, de tout ce qui peut nous bloquer, de nous sortir de nos fantasmes aussi, de nos complexes, vivre une liberté tout à fait extraordinaire, un choix de vie. Il conduit dehors aussi au niveau géographique, aller vers le monde, sortir par la porte, rencontrer le monde. Alors vous me direz, c'est peut-être risqué, évidemment, on peut se casser la figure quand on sort, ça va de soi. Vous savez qu'il y a quelques semaines, il y a une personne qui est sortie du culte et qui s'est cassé le col du fémur, en sortant, vous voyez, donc il y a un risque, comme ça. Mais personne qui ne prend pas ce risque de la vie ne vit pas. Il faut prendre le risque de la vie, il faut risquer sa vie si on veut vivre. Si on ne prend pas le soin de risquer sa vie, on reste enfermé. dans un cocon. Et on ne peut pas devenir, la larve ne peut pas devenir papillon, si je puis dire. Et donc, je crois que c'est tout à fait important de souligner ce risque. Oui, ce n'est pas toujours facile de sortir. On a bien du mal parfois de sortir au niveau géographique. Et pourtant, la vie est là. Il y a tant de visages à regarder, il y a tant de spectacles à voir, il y a tant de choses à contempler dans la vie. Il y a tant de projets qui sont là devant nous. Mille et une choses. Mais il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur de soi-même. Évidemment, nous sommes peut-être notre pire ennemi. Il ne faut pas avoir peur des autres. Il ne faut pas avoir peur du monde. Jésus, c'est bien la vie qu'il nous propose. La vie dans sa plénitude, dans, je dirais, ce qui n'est pas prévu, ce qui va nous surprendre, ce qui donne du sel un petit peu, évidemment. Jésus, c'est le lieu de passage aussi. Ah, ça, c'est typiquement Jean. Il est le chemin, la vérité et la vie. Dire ça dans l'évangile de Jean, c'est quelque chose qui est assez fort. Par Jésus, on sent bien qu'effectivement, il y a un appel qui est là, quelque chose d'assez extraordinaire, quelque chose qui nous fait sortir de nous-mêmes et qui nous conduit vers l'éternité, quelque chose qui nous dépasse infiniment, mais qui donne du sens à notre vie. Jésus-Christ est vraiment le lieu de passage vers le Père. Nous avons du mal à dire Dieu. Comme je disais tout à l'heure, chaque fois qu'on dit Dieu, on dit quelque chose d'imparfait, fatalement. Mais on peut vivre Dieu. On peut vivre Dieu tel que Jésus nous le présente dans son propre ministère, finalement. Et en regardant à ce Jésus de l'histoire qui est là, qui prêche, qui rencontre les gens, qui raconte des paraboles, on peut trouver quelque chose du reflet de la personnalité de Dieu, quelque chose qui nous dit Dieu, finalement, et qui nous dit que ce Jésus de l'histoire est bien le chemin, la vérité et la vie qui conduisent à Dieu. Il est espérance aussi. Il est espérance, lieu de vie, lieu de passage, espérance, évidemment. Il est le gardien, celui sur lequel on peut s'appuyer complètement, celui qui nous permet de dormir la nuit tranquillement. Jésus est tout cela. Il est tout cela dans sa liberté d'être, de faire, de vivre, de prêcher, de dire. Il est fondamentalement le contraire du christianisme. Parce que le christianisme ne correspond pas vraiment à ce que Jésus a prêché. Lorsqu'on parle d'enfer, lorsqu'on parle d'obligations à suivre, de lois à suivre, lorsqu'on se mêle de discours moralisateurs, on risque de dénaturer cette parole de liberté, de responsabilité, de sérieux finalement qu'il y a dans des passages comme celui de Jean 10. Dans cette parabole qui nous dit Dieu en Jésus-Christ, il est aussi important de souligner que nous sommes nommés. Nous sommes nommés. Notre nom est là, notre identité est posée. Nous sommes appelés par nos noms, dans la dignité, finalement. Nous sommes là pour être nommés, guidés, accompagnés, mais libres quand même, dans cet espace ouvert. C'est une image du salut qui libère, qui nous libère des idoles mensongères qu'il y a dans nos sociétés et qui sont si nombreuses, qui nous libère des inhibitions et des peurs, qui nous libère aussi des maîtres à penser. Jésus nous appelle toujours par nos noms, toujours par nos noms, et il nous invite toujours à le suivre et à le suivre dehors. Amen.